Vous écoutez France Culture.
Réplique du changement dans l'école avec Bérénice Levet et Antoine Pro. Changement dans l'école, c'est le titre du livre que l'historien Antoine Pro vient de consacrer aux réformes de l'éducation de 1936 à nos jours. Et ce sera le thème de la discussion qui va se tenir entre Antoine Pro lui-même et la philosophe Bérénice Levet, qui, dans le numéro de la revue Le Débat sur la culture du passé, publie un très beau texte intitulé « Le droit à la continuité historique ». Pour entrer tout de suite dans le vif de notre sujet, je voudrais vous demander si ce changement ininterrompu qui fait qu'on ne parle jamais de l'école que du point de vue de sa réforme, comme le notait Jean-Claude Milner dès 1984, si ce changement donc est un changement d'objectif ou simplement un changement de méthode. Jusqu'à quel point, autrement dit, l'école s'est-elle transformée en se démocratisant, Antoine Pro?
C'est difficile de répondre à cette question par oui ou par non, parce que les deux réponses sont également valables. Et pour une part, la réforme a cherché à poursuivre les mêmes objectifs avec des méthodes adaptées à un public qui avait quand même changé de façon considérable, puisque on passe d'une minorité qui est de l'ordre de 20% de la population à la totalité d'une classe d'âge en collège, ce qui fait une très grosse différence. Donc on a cherché à adapter les méthodes. D'autant qu'on avait une très forte proportion d'élèves en situation de grande difficulté scolaire qui étaient dans les classes de fin d'études primaires, qu'on a mis dans le collège, mais ce n'est pas parce qu'on les a mis dans le collège qu'ils sont devenus meilleurs. Et ensuite, on les a même, avec la réforme ABI de 75, on les a éparpillés dans les classes ordinaires. Donc il y avait un aggiornamento nécessaire des méthodes. Mais il y a aussi un aggiornamento des contenus et des objectifs, parce que l'école est prise entre le passé et le futur. Elle doit assurer la continuité entre les générations. Bérénice Levet a tout à fait raison, c'est fondamental. Il faut que les petits-enfants et les grands-parents puissent se comprendre. Enfin, c'est l'importance de la langue. Mais il y a aussi des œuvres littéraires nouvelles, des passés historiques récents. Vous ne pouvez pas conserver la même importance pour l'enseignement de la Révolution française si vous enseignez aussi la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la guerre d'Algérie, etc. Si vous enseignez Apollinaire, et moi je trouve que c'est très, très beau les poèmes d'Apollinaire, vous ne pouvez pas avoir Théophile Gautier, vous êtes obligé de l'imiter. Donc je crois qu'il y a des objectifs en partie différents, en partie ajustés, avec une continuité fondamentale que je dirais humaniste, parce que dans l'ensemble, notre école est restée humaniste, elle n'est pas devenue utilitaire, et puis des adaptations de méthodes.
En même temps, vous dites « notre école n'est pas devenue utilitaire », mais parmi les infléchissements, il y a eu par exemple, Antoine Pro, l'insistance sur les compétences plutôt que sur les connaissances. Et les compétences, c'est précisément ce qui vous sert dans la vie, alors que les connaissances relèvent de ce qu'on appelait autrefois, qu'on appelle les humanités, qu'on essaye d'appeler encore aujourd'hui la culture, encore qu'on ait du mal, puisque le mot englobe tout aujourd'hui, mais cet infléchissement semble quand même marquer un changement d'objectif.
Non, là, je suis en désaccord. Parce que compétence, le terme de compétence souffre beaucoup d'avoir été utilisé par l'Europe dans une perspective de mobilité de la main-d'œuvre entre les pays. Mais s'exprimer en français, être capable de formuler clairement, dans un français correct, ce qu'on pense, ou même simplement ce qu'on voit, c'est une compétence, c'est pas un savoir. C'est une compétence. Si vous me dites que Marignan 1515, c'est très bien de savoir Marignan 1515, mais vous ne savez rien si vous n'êtes pas capable de tisser autour de cette date un discours sur le rapport entre la France et l'Italie, sur la Renaissance, sur que signifie la Renaissance. Et ça, c'est un savoir qui se transforme en compétence. Donc, non, je pense que la différence entre les savoirs et les compétences, c'est que la compétence est du côté de l'élève. C'est ce que l'élève doit savoir faire. Et moi, comme je suis fondamentalement ma position pédagogique, je suis du côté du travail des élèves. Je ne suis ni du côté des savoirs, ni du côté de l'enfant ou de la spontanéité. Je suis du côté du travail. Et je trouve qu'il y avait une grande sagesse dans les instructions du 19e siècle qui prescrivait le travail que les élèves devaient faire. Il n'y avait pas de programme, puisque c'était les textes latins et grecs. Mais il y avait 5 devoirs par semaine, et les instructions disaient le jour auquel les devoirs devaient être rendus et le jour auquel le professeur devait les remettre corrigés. Il y avait un discours français, un discours latin, une version latine, un thème latin, une version grecque, et parfois des vers latins. Et je trouve qu'on ne définit pas suffisamment le travail des élèves et ce que les élèves doivent faire. Alors, ce qui est très intéressant, quand vous regardez par exemple le décret de 2006 sur le socle commun de compétences, c'est que il vous donne des attitudes, il vous donne des compétences, et puis après il passe les connaissances et il vous fait des listes de connaissances telles qu'on retrouve tous les programmes. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on fait la liste de ce que les profs doivent dire? Ou est-ce qu'on fait la liste de ce que les élèves doivent savoir faire? Moi, je suis du côté de... il faut qu'on dise ce que les élèves doivent savoir faire. Et il faut qu'on demande aux élèves de façon dure de faire ce qui est attendu. Vous voyez, quand un peintre vous met un lait de papier, un peintre en bâtiment vous met un lait de papier de travers sur un mur, eh bien, on l'enlève et on le remet de façon à ce qu'il soit droit et qu'il joigne l'autre lait correctement. Eh bien, le travail intellectuel, il doit obéir aux mêmes règles de rigueur.
Bérénice Levet.
Oui, à la question que vous posez, Alain Finkielkraut, je me demande justement si ce n'est pas la question que l'institution scolaire ne s'est pas véritablement posée. Et l'école est exsangue, me semble-t-il, parce qu'elle vit de réponses qui ne font plus sens pour elle. Et donc, l'école ne sait plus exactement quelles sont ses finalités. Alors, résultat, elle reste à cheval, placée à mi-chemin entre des réponses qui sont léguées par l'école républicaine de la Troisième République, et puis en même temps des réponses qui ne lui sont plus adaptées, en sorte qu'elle vivote. Elle vivote à grands frais, certes, mais il me semble qu'elle est maintenue sans conviction dans un entre-deux crépusculaire et qui est la grande question, en sorte que lorsque Vincent Peillon promettait la refondation de l'école, on aurait voulu qu'il prenne la formule au mot, c'est-à-dire véritablement s'interroger sur les fondements, c'est-à-dire les finalités de l'école, et il a botté en touche. Or, il me semble que c'est toute la question qu'il faudrait vraiment poser. Voulons-nous encore d'une école chargée de transmettre les savoirs, ou bien prononçons-nous le requiem de l'école et on passe véritablement à une école transformée en centre d'activité culturelle? Mais je crois que faute de répondre à cette question, résultat, on continue à transmettre les auteurs du passé, mais on n'est plus qu'en délicatesse avec le passé. Alors, on essaye de s'arranger pour les rendre vivants, assez significativement.
Pour les dépoussiérer, comme
oui, pour les dépoussiérer. De toute façon, avec les metteurs en scène, les professeurs deviennent des spécialistes du dépoussiérage, oui, des classiques. Et puis, si on prend justement les propos d'Aurélie Filippetti lorsque, à la rentrée scolaire 2013, l'enseignement de l'histoire de l'art, censément, l'histoire de l'art était inscrite comme enseignement obligatoire, elle s'est empressée de nous rassurer en nous disant qu'il s'agirait d'abord de la découverte de la création vivante. Donc on est sans cesse en train d'essayer de s'arranger entre les morts que l'école est censée encore transmettre et puis en définitive un discrédit qui frappe les morts. Et donc l'école ne sait plus ce qu'elle fait. Et je crois que c'est quand même là qu'est la vraie question.
Oui, en effet, il y a cette hésitation profonde de l'école actuelle, mais il me semble que l'école a choisi, si j'ose dire, la vie contre les morts avec les nouveaux objectifs de l'enseignement du français. Et ce qui me conduit à parler ainsi, Antoine Prost, c'est précisément la lecture de votre livre. Vous dites que l'objectif est maintenant l'acquisition des moyens linguistiques de la communication. Il s'agit de rendre l'enfant capable de s'exprimer oralement et par écrit et de comprendre ce qui est dit et écrit. D'où un triple retournement. D'abord, il faut partir des communications que pratiquent les élèves pour les analyser et les enrichir, et non de normes de langage ou de règles grammaticales pour les faire appliquer. On n'enseigne plus la grammaire, peut-être un peu l'observation réfléchie de la langue, l'ORL. Cet ancrage dans la communication conduit ensuite à donner, dites-vous, la priorité à l'oral sur l'écrit et à insister sur la motivation des élèves. Pour s'exprimer, l'enfant doit avoir quelque chose à dire. Enfin, le rôle du maître change. Pour faire parler les élèves, il doit lui-même parler peu et se faire en quelque sorte meneur de jeu. C'est sur ce point que le changement sera le plus sensible en 67-68, mais évidemment, ça a commencé en 68, ça n'a fait que se développer depuis. Alors, est-ce qu'on peut faire un premier bilan changement d'orientation?
D'abord, sur le diagnostic, ça a commencé avec 1968, je ne suis pas d'accord.
Mais c'est ce que vous dites?
Non, ce que vous citez, c'est le plan de rénovation du français, il est antérieur à 68.
Oui, d'accord.
Et il a été préparé par... Et deuxièmement, ce que vous citez, c'est le plan de rénovation du français, vous savez qu'il n'a pas été appliqué de cette façon-là. Donc vous le tordez un peu. Et troisièmement, dire que les professeurs parlent trop, je vous renvoie à la conduite des écoles chrétiennes de Jean-Baptiste de La Salle, qui n'est pas un novateur progressiste et qui dit « le babil est le principal défaut du jeune maître ». C'est vrai. Et alors, dans le fait de faire...
Le babil, ça peut être aussi le cours magistral, qui semblait-il
absolument,
le défaut de l'éducation aujourd'hui.
Absolument.
Vous trouvez?
Écoutez... Je vais vous dire une
chose. Nos plus beaux souvenirs, c'est quand même
mais
des
oui.
souvenirs
mais
de
non,
cours
mais,
magistraux.
Mais non, mais écoutez, j'ai des souvenirs de cours magistraux, mais j'ai fait une expérience que je vous livre, qui est quand même, qui a été pour moi une sorte de chemin de Damas. C'était en première année de fac avec des étudiants, et je leur avais donné une dissertation, et je l'ai corrigée. Bon, et j'avais 2 heures pour leur rendre leur dissertation. Et mon corrigé faisait 1 heure. Donc je leur ai rendu leur devoir. Et je leur ai dit, je vais vous faire un corrigé. Donc je leur ai fait un cours magistral sur le devoir, qui a duré 3 quarts d'heure comme il se doit. Et je leur ai dit, ensuite, vous allez par écrit, en vous appuyant de vos notes, me restituer ce que je vous ai dit. Et à la fin de la 2e heure, j'ai récupéré les copies. Bon, la moitié des copies, il n'y avait que 2 parties, et mon plan était en 3 parties. Donc, sur l'efficacité, et c'est quand même une situation pédagogique qui est intéressante, parce qu'ils avaient déjà travaillé sur le sujet, ils avaient déjà fait un devoir, je leur donnais leur copie corrigée, et je les avais prévenus, je ne les ai pas pris en traître. J'aurais dit, la 2e heure, vous me ferez le compte-rendu par écrit. Donc, qu'est-ce qui reste d'un cours magistral quand vous ne l'avez pas relu et corrigé? Vous pouvez faire tous les cours magistraux que vous voulez, si les étudiants ne prennent pas des notes et s'ils ne relisent pas leurs notes, ils ont ensuite, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain. Ils auront le souvenir d'avoir entendu quelqu'un qui savait, mais ils ne sauront rien.
Oui, mais alors, sans cours magistraux, ils ne retiendront même strictement rien.
Mais
peut-être que...
Mais je ne vous dis pas de supprimer les cours magistraux. Je vous dis que le cours magistral, il faut l'intégrer au travail des élèves. Et quel est le travail que les élèves font sur le cours magistral? Actuellement, vous avez des élèves qui ont 30 heures de cours, ils mettent leurs notes et ensuite ils les perdent. Quand ils les prennent, résultat, c'est nul. Il ne peut rien rester.
Mais nous sommes censés, en tant que professeurs, vérifier régulièrement que le cours... Bon, moi, j'ai la chance, enseignant dans des établissements privés, de pouvoir donner 2 heures de cours magistraux sans difficulté. Je sais, malgré tout, que les fruits sont là. Les étudiants, les élèves, certes, ne retiennent pas tout. D'abord, l'année terminale en philosophie est une découverte. Il y a des difficultés qui se posent à eux. Mais il n'empêche qu'on ne peut vraiment pas dire qu'il n'en reste rien. En sorte que...
Non, mais attendez, il faut graduer les... On ne peut pas tenir le même discours sur le cours magistral, au cours préparatoire, et en classe de philosophie, ou en fac. Bien sûr que le cours d'agrègue, il est irremplaçable. Non, moi, j'ai passé ma vie à faire des cours.
Oui, hein. Mais si on en revient à l'enseignement du français dont parlait Alain Finkielkraut, le problème aujourd'hui, c'est que, et justement, dans l'école d'après 68, qui est celle dans laquelle j'ai grandi, donc je suis bien placée pour le savoir, moi, j'ai vu ce qui se passait à l'école primaire. C'est que jusqu'en CM1, j'ai eu des instituteurs qui renonçaient, en effet, aux cours... classique, c'est-à-dire avec une leçon de grammaire quotidienne à apprendre, une dictée, etc. C'était la fin de cet enseignement dans les années 70. Et il s'est trouvé qu'en CM1, je suis tombée sur un professeur, mais qui était encore en blouse grise, hein, cheveux blancs, et qui n'était absolument pas effectivement dans la réforme. Et elle nous faisait apprendre quotidiennement des règles de grammaire que je peux encore réciter par cœur. Donc la seule institutrice à l'endroit de laquelle je suis en dette, c'est elle. Les autres professeurs étaient très sympathiques, assurément, mais je n'ai rien appris avec eux.
Mais...
Alors que ce professeur, il n'y avait pas une seule sortie dans le cours de l'année scolaire, mais il n'empêche que son travail d'institutrice s'est effectué et que la grammaire, elle nous l'a véritablement transmis. Je lis actuellement un professeur des écoles... qui enseigne, je ne sais dans quel établissement, c'est un témoignage qui est paru dans Paris Match, qui est consacré quelques pages à l'enseignement du français. Et elle avoue, c'est vrai qu'il n'est plus envisageable d'étudier la grammaire dans le bled. Ça reste à voir. Mais elle poursuit. L'expérience prouve néanmoins que la mémorisation passe par l'écrit. Lorsqu'on travaille la conjugaison ou que l'on fait de l'orthographe sur l'ordinateur, les enfants sont contents, mais finalement, ils ne retiennent pas grand-chose. Bon, voilà, donc, pourquoi plus de règles de grammaire dans le bled ? Je ne vois pas...
Attendez, ce que vous êtes en train de décrire avec votre institutrice, c'est un instituteur qui fait classe, c'est-à-dire qui fait travailler les élèves, qui fait apprendre les leçons, qui les fait réciter, et qui a une gradation. Vous n'êtes pas dans le faire cours, vous êtes dans le faire classe. Et pour moi, c'est tout à fait différent. Moi, quand avec mes étudiants... Je disais, voilà, je vais vous apprendre à faire une introduction. Vous avez tel sujet, vous êtes, je vous donne 20 minutes, vous m'écrivez votre introduction. Et puis qu'après, je disais, un tel lisait, et que ça se terminait par la rédaction commune d'une introduction. D'une certaine manière, je faisais classe. Et ce que je transmettais, c'était une compétence. C'était pas un savoir. Savoir faire une introduction. Non, mais c'est pas grave. Mais tout à l'heure, vous étiez. Vous
étiez. Mais un savoir aussi. Vous avez tout de même transmis.
Mais
des
oui,
savoirs,
mais.
Professeur d'histoire.
Mais oui, bien sûr. Mais pour que le. Oui. Si les étudiants n'apprennent pas à problématiser.
Bien sûr.
Vous allez avoir un chapelet de faits sans et signification.
Bien sûr. Bon. Mais la signification aussi, c'est vous qui l'a donnée. Et de ce point de vue-là, vous êtes irremplaçable parce que les faits, ils peuvent les trouver.
Ils peuvent les trouver sur le web, bien sûr.
Mais le sens, oui, mais, la méditation mais, sur les mais faits, vous... c'est la parole
oui,
irremplaçable
oui,
du professeur.
Mais aucun discours de la méthode sur faire une introduction n'a jamais eu aucune efficacité. Mmh. Vous dites aux étudiants, il faut poser le problème, il faut énoncer vos trois parties. Ça coule comme de l'eau sur les plumes du canard. Il n'y a qu'en écrivant une introduction. Mais je suis très surpris. Alors ça, c'est aussi une...
Bon, mais non, allez-y, continuez.
Non, parce que je ne pense pas que ce soit l'école qui soit indécise. Ce que je pense, c'est que c'est la société qui est indécise sur ce qu'elle pense pour l'école. Et le grand défaut de l'école, ce qui est en train de détruire l'école, c'est le manque de consensus social sur l'école.
Oui.
Qui fait que la gauche fait une chose, la droite le défait, la droite fait une chose, la gauche le défait. Alors faire et défaire, c'est toujours travailler, je veux bien. Mais le résultat, c'est que vous décervelez et vous découragez et vous démobilisez tout le corps enseignant.
Tout le corps enseignant. Mais ça, c'est très juste, Antoine Pro. Mais peut-être aussi, faudrait-il faire un bilan des réformes et s'interroger sur le niveau actuel de ceux qui sortent de notre système scolaire, qui ont le baccalauréat, par exemple. Pour en revenir à l'enseignement du français, cet infléchissement que vous décriviez quand même a eu lieu, au sens où on a beaucoup insisté sur l'expression et où on a voulu, en supprimant les cours de grammaire dont parlait Bérénice Levet, en quelque sorte donner la parole aux élèves avant de leur donner la langue. Car la grammaire, la syntaxe, c'est quand même c'est ça. C'est la structure à l'intérieur de laquelle une véritable pensée peut s'élaborer. Le résultat, et on continue, j'ai ici les 300 décisions pour changer la France de la commission présidée par Jacques Attali il y a quelques années, eh bien, il parlait de la nécessité de mettre en avant, non la capacité à mémoriser ou l'application des enfants, mais leur créativité, comme si c'était ce qui devait arriver tout de suite. Le résultat, c'est que la syntaxe des élèves, et même des étudiants, et l'orthographe sont totalement défaillantes. Un élève en classe terminale écrit souvent « les échanges », échange ENT, et « ils échangent » avec un ES. Donc vous voyez, ça va très au-delà d'une faute d'orthographe banale. Et on s'est beaucoup gossé d'un tweet d'Aurélie Filippetti, qui est très intéressant parce qu'il y avait un certain nombre de fautes d'orthographe. Soutien total à Frédéric Aziza, dont les attaques ont des relents abjects d'avant-guerre. Elle s'est trompée sur le mot relent, c'est un tweet, peut-être une faute d'attention. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est dont les attaques ont des relents d'avant-guerre. Parce que ce ne sont pas les attaques qu'il a menées, mais des attaques qu'il a subies. Là, c'est la syntaxe qui s'effondre. On en est là quand même. On en est là aujourd'hui. Et il me semble que la société sans doute est coupable, mais également, me semble-t-il, un certain nombre de réformes qui ont voulu abolir la grammaire pour justement faire du professeur un meneur de jeu. Bon, il avait autre chose à faire quand même, Antoine Prou. Et puis,
oui, moi je n'ai pas fait un livre sur l'enseignement de la grammaire, j'ai fait un livre sur les réformes dans l'école. Et vous dites qu'il faudrait faire un bilan. Dans l'état de désaccord de la société française, le bilan est impossible à faire. Je prends un cas très simple, c'est celui des IUFM. Les IUFM ont été évalués par le Comité national d'évaluation. Le Comité national d'évaluation, c'est des profs de fac, c'est des gens qui n'ont pas du tout, c'est pas des psychopédagogues, c'est pas les pédagogues culturels dont vous parliez dans Le Monde en 2000.
Quelle mémoire ?
Ben, les historiens, il faut que ça ait un peu de mémoire. J'ai lu 25 des évaluations du Comité national d'évaluation. C'est une documentation disponible. C'est un bilan extrêmement contrasté, très intéressant, parce qu'il montre que les pratiques ne sont pas les mêmes dans tous les IUFM. Personne ne s'est soucié de faire un bilan des IUFM, de voir ce qu'il y avait de bien, ce qu'il y avait de mal. Il y avait du mal, il y avait du bien. Mais la bataille pour ou contre les IUFM se fait à front tranché. Donc, si vous faites un bilan, si c'est la droite qui fait le bilan, les IUFM, c'est une catastrophe. Et si c'est la gauche qui fait le bilan, les IUFM, c'est quand même un progrès. Donc, comment voulez-vous avancer, faire le bilan ? Moi, je suis tout à fait de votre accord. Il faudrait faire le bilan, mais il faudrait qu'on accepte de faire le bilan avec des indicateurs un peu objectifs.
Il suffit de tendre l'oreille, là,
non,
parce qu'il y a de la
non, justement, je me dis... Non, il ne suffit pas de tendre l'oreille. Si vous tendez l'oreille, vous entendez que des stéréotypes.
Les gens parlent. Non, je veux dire, la manière dont étudiants s'expriment.
Si vous voulez me convaincre, vous perdez votre temps. Je suis déjà convaincu, n'essayez pas. Parce qu'avec les SMS, etc. La grammaire, mais même qui utilise la forme interrogative en français aujourd'hui? Personne n'utilise la forme interrogative.
Tu vas faire ça?
On dit pas vas-tu, on dit tu vas.
Oui, là, c'est ça, absolument.
Oui. Non, mais
Bérénice Levet,
ce que vous disiez, Antoine Pro, concernant l'indécision de la société est tout à fait juste, mais effectivement, tout bilan toute évaluation suppose de s'entendre, j'en reviens à l'idée de finalité, elle s'entende sur les finalités. Donc la société, elle se défausse aussi sur les ministres de ce qu'elle attend de l'école. Les parents, par exemple, à la fois voudraient que leurs élèves, leurs enfants soient instruits à l'école, mais en même temps, il faut se soucier de leur bien-être, de leur épanouissement, en sorte que l'école est aussi investie d'un tas de missions incompossibles et personne ne veut prendre à bras le corps, ou en tout cas prendre en charge, trancher dans la question et savoir si véritablement c'est le bien-être des enfants ou les efforts que, comme vous le disiez, demande la véritable acquisition d'un savoir et l'acquisition de compétences.
Alors justement, les efforts, Bérénice Levet, le sens de l'effort, pendant longtemps, dans l'école républicaine, allait de pair avec la sélection. Une sélection d'ailleurs, et c'est un des points extraordinairement intéressants de votre livre Antoine Prot, qui était très cher à Georges Pompidou, agrégé de lettres classiques, et qui voulait, lui, un baccalauréat très sélectif. Et le général de Gaulle ne voulait pas qu'on puisse entrer directement, une fois obtenu le baccalauréat, dans l'enseignement supérieur, parce que, dit-il, ce serait le triomphe de la médiocratie. Donc, au moment même des réformes, ces républicains-là étaient attachés à la sélection. Aujourd'hui, il me semble qu'une idée fait consensus, qui est en quelque sorte l'idée d'égalité, mais pas simplement l'égalité des chances, pas simplement l'égalité devant la loi, en quelque sorte le droit de tous à tout. D'où une série de suppressions, la suppression des classes de transition, vous l'avez dit, donc maintenant dans le tronc commun, il y a tout le monde tout de suite, la suppression des redoublements, on voit que des écoles expérimentent l'orientation par les parents, les professeurs sont dépouillés de cette dernière prérogative, c'est aux parents de choisir l'orientation de leurs élèves, de leurs enfants, tout cela est une poussée, mais évidemment, il me semble qu'elle débouche nécessairement cette obsession de l'égalité sur l'effondrement du niveau, puisque on est obligé de s'aligner sur le niveau des mauvais élèves, dès lors que l'émulation et la sélection sont mises entre parenthèses. On ne va pas décerner de prix aujourd'hui.
Non, mais c'est Antoine, non, je suis pas d'accord, parce que la sélection, notre système est quand même très sélectif. Non, il y a quelque chose.
Tardivement sélectif.
Oui, mais on a un système, c'est un peu le reproche que je ferais là, ce que vous venez de dire, car chaque fois qu'on veut démocratiser, les intellectuels, vous me permettrez d'utiliser cette catégorie approximative, disent attention aux bons élèves, on va en faire baisser le niveau. Quand M. Abi a mis les élèves des classes, a supprimé les classes de transition et qu'il a mis les élèves de transition dans toutes les classes, Il a fait une très grande circulaire sur la pédagogie de soutien. Et il a donné 2 heures par classe supplémentaires aux établissements pour organiser cette pédagogie de soutien. J'ai lu la circulaire, elle est tout à fait remarquable, elle dit tout ce qu'il faut faire en graduant en fonction des difficultés des élèves. 4 ans après, 1980, vous avez un rapport d'inspection, il n'y a pas de pédagogie de soutien dans les établissements, les chefs d'établissement ont utilisé les heures à autre chose. C'est-à-dire qu'on les a utilisés à faire des options pour les bons élèves. C'est une évolution qui est quand même assez caractéristique de l'enseignement français. Et ce qu'il y avait de bien, vous voyez, je suis quand même plutôt un homme de gauche de tradition, mais je trouve que la loi Fillon était une bonne loi. Je trouve que l'idée de socle commun était très bonne parce qu'elle disait, elle fixait l'obligation de résultat. Il faut que l'école aboutisse à ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a opposé à ça? On a dit, vous voulez que tout le monde sache un minimum, vous trahissez la culture.
Mais c'est-à-dire qu'effectivement, ça devient tellement minimal qu'on est très loin de l'école qui prétendait cultiver
mais non, c'est pas
les
minimal.
Élèves. Mais comme on dit que c'est une culture bourgeoise,
mais non, c'est pas non, mais c'est pas minimal. C'est pas minimal de savoir s'exprimer, de savoir lire, d'avoir des connaissances de l'histoire générale de notre société, non?
Oui, là où je rencontrerai Antoine Prost, c'est que, effectivement, de toute façon, vu le niveau aujourd'hui, mieux vaut en rabattre dans nos ambitions que de demeurer à un niveau ambitieux que de toute façon nous ne pouvons plus satisfaire. Je le vois avec le programme de philosophie, il est tout à fait remarquable de vouloir encore enseigner un programme excessivement chargé. Bon, je mentionnerai qu'il y a 23 notions en section L, à raison de 8 heures par semaine, 19 en section ES et 15 en S. Résultat, nous sommes obligés de traiter les notions très hâtivement face à des élèves qui n'ont plus aucun élément de base pour pouvoir malgré tout comprendre ce qu'on leur transmet. En sorte que là, ce ne serait pas non plus baisser le niveau que de peut-être diviser par deux le programme, en tout cas le réviser à la baisse pour que un minimum de culture philosophique soit acquise par les élèves.
Bien sûr, Bérénice Levet, mais nous vivons quand même là les conséquences, je crois, vous allez sans doute me détromper, Antoine Pro, et peut-être vous, Bérénice Levet, d'un changement qui est même un renversement. Peut-être faisait-on trop de crédit aux meilleurs élèves autrefois, avec l'émulation, mais l'émulation ayant été identifiée presque à la compétition hyperlibérale, elle a été désactivé aujourd'hui, et donc il y a une obsession du dernier de la classe, et cette obsession elle s'est répandue dans la société aujourd'hui, parce que quand vous écrivez un article dans un journal et que vous faites référence, et dans le journal de référence même, donc dans Le Monde, et que vous faites référence à un événement historique, que ce soit les ordonnances de Charles X ou événement tragique, la conférence de Wannsee, eh bien le directeur, le rédacteur, je ne sais pas quoi, s'affole. Parce que, dit-il, les jeunes ne comprendront pas. Les jeunes. Donc, le jeune qui, normalement, devait savoir un peu plus, puis était plus allé plus à l'école que ses parents, on sait qu'il était terriblement à l'école, et il ne sait pas. Et c'est en fonction de ce dernier de la classe imaginaire que tout est dit, tout est fait. Ce qui fait que, par exemple, même dans des livres sérieux de grands éditeurs, eh bien, on ne peut pas, un auteur ne peut pas citer Spinoza, Hegel ou Kant sans que l'éditeur ajoute, entre parenthèses, leur date de naissance et de mort. Non, et maintenant, on voit le poète Victor Hugo dans Le Monde.
Notamment, insignifiant, savoir la date de naissance et de mort de Spinoza ne dit rien sur les idées de Spinoza.
Oui, mais avec cette idée que maintenant, il est sûr que nous sommes tous de très mauvais élèves et que personne ne sait rien. C'est quand même ça. Et donc, on a l'impression que c'est aussi parce que l'enseignement, c'est ça. C'est-à-dire, on parle d'abord à ceux qui ne savent rien, et quant à ceux qui savent, ils n'ont qu'à patienter. Donc, il me semble que nous allons de plus en plus, et là je vais vous citer Renaud Camus dans le dernier volume de son journal, « Non, la culture, au lieu d'être un train qu'il faut toujours prendre en marche et qui vous emmène vers des pays inconnus, est devenue un gentil bus scolaire qui certes vient vous chercher à votre paillasson, mais qui par compensation ne fait plus que tournicoter sympathiquement dans le voisinage, guettant qui d'autre il pourrait bien ramasser et ne vous exposant jamais pour ne pas vous froisser qu'à ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire à rien. Ben, » il me semble que voilà, c'est quand même le résultat
du changement. Je nie le constat. Sur quoi s'appuie-t-il?
Sur ce qu'on voit aujourd'hui.
Mais c'est
ce que fait la presse maintenant.
C'est quand même beaucoup plus compliqué. Enfin, il y a des choses dont on ne parlait pas et dont on parle aujourd'hui et qui sont connues de... Et puis, il y a des choses qui ont disparu il y a très longtemps. Moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je n'enseigne plus à Sciences Po. Je me souviens un jour dans un amphi de Sciences Po, j'étais pas en première année, avoir dit joie, pleure de joie, et puis me reprenant, me disant... combien il y en a qui comprennent, j'ai dit, je viens de dire joie, pleure de joie, est-ce que ça vous dit quelque chose? Il y a deux mains qui se sont levées. Pascal était déjà aux orties, et c'était il y a 30 ans. Donc si vous voulez essayer de faire revivre les pensées de Pascal aujourd'hui, vous aurez bien du plaisir. Mais vous avez des choses, vous avez d'autres choses
Alors là, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendu sur le sens que je donnais à la révision des programmes, par exemple, de philosophie. Il ne s'agit absolument pas de tirer vers le bas. Mais en revanche, pour que soient encore transmises certaines choses, je pense qu'il faut réviser les ambitions malgré tout. Mais en rien capituler sur l'enseignement de Pascal, de Descartes.
Oui, vous ne pouvez pas enseigner à la fois Platon, Descartes, Malebranche, Pascal, Kant, Heidegger, Hegel, dans l'espace d'une année. Il faut que vous choisissiez. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je dis, il faut avoir un niveau d'exigence tel que les élèves puissent l'atteindre. Mais il faut exiger que les élèves l'atteignent.
Sans une idée trop méprisante des capacités, malgré tout, des élèves. Donc, il faut absolument avoir cette aspiration à les tirer vers le haut, à leur faire découvrir et surtout ne pas... Cette hantise des adultes et qui a même envahi l'école d'être en retard sur les élèves ou sur les enfants. Je crois que, peu importe, nous sommes là pour transmettre des pensées anciennes et d'ailleurs c'est notre seule légitimité. Ils ont besoin de nous pour être escortés dans les pensées de Platon, de Descartes. Et donc,
le problème c'est qu'aujourd'hui, même beaucoup d'adultes, considère que le passé est dépassé.
Oui, l'ancestral,
c'est ce que vous dites dans votre article. L'ancestral se confond en fait avec l'archaïque, dépassé
le caduc.
Par la technique, dépassé par la démocratie, parce que en termes de droits de l'homme, nous sommes les meilleurs de tous les siècles. Donc, nous sommes amenés à regarder avec condescendance
ça, faut le dire vite.
Ces gens qui ne militaient pas comme nous le faisons pour tous les droits. Et quant à la technologie, les enfants étant plus habiles que les adultes, le numérique pénétrant dans l'école, on instille en eux deux fois une sorte d'esprit de supériorité, oui. Alors que si culture il y a, ce n'est pas pour dire c'était mieux avant, c'est pour dire on peut apprendre des textes antérieurs dont certains nous sont infiniment supérieurs.
De toute façon, une des choses qui m'est justement précieuse et dont j'essaye un peu de parler dans cet article, c'est précisément la faculté d'imagination au sens que Hannah Arendt donnait à cette notion avec Kant, c'est la capacité d'emmener son esprit en voyage. Et donc, effectivement, c'est découvrir des contrées absolument inédites. Et donc là, il est évident qu'il ne s'agit absolument pas de se mettre au niveau des élèves.
C'est le problème de la fronde. C'est le problème de la fronde. Si vous tirez trop sur l'élastique, il casse. Si vous ne tirez pas assez... Le projectile ne part pas. Le problème numéro un de la pédagogie, c'est la juste tension de l'élastique de la fronde. Il faut mettre le niveau à un point tel qu'on puisse exiger des élèves qu'ils l'atteignent. Donc, si vous mettez le niveau trop haut, vous les découragez. Si vous le mettez trop bas, ils n'apprennent rien et ils perdent leur temps. Il faut. Bon, alors si vous voulez me faire dire que le passé, on ne peut pas du passé faire table rase, c'est pas un historien qui va vous contredire sur ce temps. Mais je dis que pour garder le passé, on ne peut pas garder tout le passé.
On ne peut pas garder tout le passé,
Il y a des passés morts qui tombent les uns après les autres.
Et puis, enfin,
et il y a des passés nouveaux qui ressurgissent. Pascal... Moi, je suis très frappé, par exemple, de la résurrection de la guerre de 14.
Oui, ça c'est vrai, en tant que... vous avez raison, comme historien.
C'est quand même énorme.
C'est énorme.
Regardez le succès de la grande collecte, regardez ce qui est en train de se passer dans la société
absolument.
Française.
Mais,
c'est pas le passé.
C'est pas Pascal qui est mort, c'est nous qui risquons d'être morts si nous ne lisons pas. Et nous avons beaucoup à apprendre, je crois, encore de la distinction des ordres et de la définition qu'il donne de l'ordre de l'esprit et
absolument,
de la différence avec l'ordre
avec
de la charité.
Et la grandeur d'établissement.
Voilà, donc je crois que Pascal, mais je voudrais vous citer ici, Antoine Pro, le témoignage d'une ancienne professeure de français, enfin qui est à la retraite aujourd'hui, qui est venue une fois, je crois, à mon émission, Cécile Reverret. Elle a écrit un petit livre, La sagesse du professeur de français, en disant qu'elle a continué à faire étudier le Cid, alors même qu'il n'était plus au programme, et que les élèves s'enthousiasmaient parce que c'était loin d'eux, justement. C'est-à-dire, il était éloigné de leurs préoccupations quotidiennes. Il était par elle, en cela, jugé digne d'étude. Et effectivement, aussi, admiré par les élèves qui aimaient être emportés, aller en voyage. Or, dit-elle, la plupart des professeurs obéissent aux consignes, choisirent une problématique proche des élèves, celle-ci fleurit dans des ouvrages que nous trouvons en quantité dans nos casiers, avec cours tout fait et à paracritique ambitieux, sur des situations assurément peu dépaysantes, le divorce de mes parents, et on voit ce que le mariage pour tous pourra proposer comme variante, la vie difficile dans ma cité confrontée au racisme, et l'on voit là quand même, je ne sais pas comment dire, le discours contemporain, papa au chômage, etc.
On voit les lieux communs.
Oui, on voit les lieux communs, oui, puisque c'est vous qui le dites.
On voit les lieux communs, mais c'est évident.
Dans un article du Monde sur l'enseignement de l'histoire et la non-transmission de l'histoire, la journaliste du Monde essayait justement d'expliquer cet affaiblissement du niveau par le fait que, alors je la cite, « toute une frange de nouveaux collégiens se désinvestissent peu à peu d'un enseignement idéaliste, trop loin d'eux et de leurs compétences réelles. » Mais trop loin d'eux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la définition même du passé, d'être loin de nous. En sorte qu'avec cet argument, on laisse tomber...
Et la question, c'est ça. C'est, est-ce qu'il faut résister ou faut l'accepter?
Je ne suis pas d'accord avec vous. Le passé est loin si vous ne le faites pas revivre. Vous pouvez... Moi, je vous fais le pari... En expliquant la stèle d'Amourabi à des élèves de 6e, je suis persuadé de pouvoir leur faire vivre la stèle d'Amourabi.
Je suis convaincue avec vous de cela parce que, justement, moi, mon expérience prouve qu'en ayant les plus grandes exigences, les élèves ne répugnent pas à être instruits véritablement, à être élevés et que l'on fasse le pari qu'ils puissent comprendre Descartes ou Platon.
Oui, mais les collègues, les collègues n'ont pas renoncé. Les collègues n'ont pas renoncé. Les collègues se battent. Vous parliez du CID. Moi, j'ai été très surpris. J'ai fait quelques enquêtes il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années. Je pense que c'est l'époque dont vous parliez. Le CID était toujours enseigné en 4e. Hein. Et ce qui me frappait beaucoup, c'est qu'il était en 4e, qui est la classe, j'allais dire classique, où on étudiait le CID de mémoire de prof.
Oui, mais vous dites... Les professeurs n'ont pas renoncé, mais est-ce que les inspecteurs, est-ce que leur hiérarchie leur dicte de ne pas céder ou leur dicte au contraire de s'adapter? Certains se plaignent d'être abandonnés par l'institution. L'une d'entre ses professeurs m'a écrit récemment, elle enseigne le français dans un collège de ZEP. Elle est confrontée à la hargne, dit-elle, des élèves devant leur volonté de transmettre, et des élèves d'autant plus confortés dans leur ignorance et leur fainéantise, dit-elle, que l'institution les y pousse. Les proviseurs ne veulent pas d'ennuis parce que c'est comme ça qu'ils sont bien notés, donc ils étouffent tout, et dit-elle... le niveau que l'on propose est toujours trop élevé d'après les inspecteurs. Il nous faut à présent en venir juste à l'utile. Toute étude d'un texte ou d'une figure doit se justifier par l'utilité qu'ils auront dans la société et dans leur entreprise. C'est exactement ce qui a été mis en place, dit-elle, au travers du système des compétences. C'est pourquoi apprendre à reconnaître la beauté dans l'écriture, s'extasier devant une phrase, un agencement de plusieurs mots, une figure qui témoigne d'une élévation de la pensée, n'est plus ce qui importe. Elle a le sentiment, quand elle défend cela, d'être abandonnée, en quelque sorte. Et ça, ça veut dire que l'institution n'a pas choisi... Justement, ce que Bérénice Levet semble souhaiter, et ce dont vous reconnaissez vous-même l'importance.
Je pense que l'éducation nationale a un vrai problème de gouvernance. Je pense que... Je fais mon séminaire sur le Conseil national des programmes, parce que toutes les archives sont disponibles. Nous avons interviewé successivement Luc Ferry et Dominique Borne pour voir ce qu'ils disaient sur... Et un des participants au séminaire a dit à Dominique Borne, c'est quand même étrange parce qu'on vous entend, on a entendu Luc Ferry, tout ça c'est très bien, mais il ne se passe rien à la base. L'éducation nationale, c'est moi qui le résume de façon un peu, est un système où ce qui part du haut n'arrive jamais en bas. Donc, il y a un problème de gestion des corps d'inspection. Il faut quand même de composition des corps d'inspection, parce qu'ils sont composés de briques et de brocs, et avec des tours extérieures qui ne sont pas toujours justifiées. Il y a un problème d'inspecteurs pédagogiques régionaux. Il y a tout un problème. Enfin, quand vous voyez ce que je vous racontais tout à l'heure sur la pédagogie de soutien, que le ministre donne 2 heures pour qu'on en mette en place cette aide, et que 5 ans après, l'inspection générale constate que ça ne s'est pas passé du tout. Regardez le socle commun. Vous avez une commission parlementaire, l'Assemblée nationale s'en est occupée. Il y a un monsieur Grosperrin qui était député, qui n'a pas été réélu, qui a fait un rapport. Ils sont allés, ils ont fait une mission d'enquête, ils sont allés dans un collège. Dans un des collèges, les professeurs, 4 ans après, hein, en 2010, 4 ans après, les professeurs ont découvert la veille de leur visite qu'il y avait un socle commun. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une administration qui met en place un socle commun en 2006 et en 2010, c'est pas encore arrivé dans les collèges ? Moi, je comprends pas comment ça se passe. Enfin,
si vous permettez, en même temps, je ne suis pas sûre que... on puisse totalement exonérer les professeurs. Parce que le professeur que vous avez cité, bon, moi-même, nous sommes quand même des résistants, même au sein de la corporation. Parce que,
même au sein de la corporation.
Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de professeurs qui... considère que effectivement tout ça c'est des vieilleries, que introduire du ludique le professeur que j'ai cité tout à l'heure, oui, le bled c'est plus possible, pourquoi? Et j'ai également entendu un professeur à la rentrée 2011 me semble-t-il, et ce professeur était professeur de lettres, elle avait 26 ans et elle confessait être désemparée, je la cite: je n'ai jamais vu d'élèves, je ne sais pas faire cours, je ne sais pas ce qu'est un adolescent, quelle importance, moi non plus je ne sais pas ce qu'est un adolescent quand j'enseigne la philosophie, mais c'est vraiment pas mon problème. J'ai bien conscience que le français, lire 600 pages de Balzac, ce n'est pas ce qu'il y a de plus drôle dans la vie. Mais en effet, nous ne sommes pas là pour divertir
les élèves. Attendez, c'est pas vrai ce que vous dites. Quand vous dites je sais pas ce que c'est qu'un adolescent, c'est pas vrai.
C'est pas moi qui le dis, c'est ce professeur qui est désemparé.
Non, mais commentant ce professeur, vous dites moi je ne le sais pas et ça m'indiffère. C'est pas vrai. Mais ça n'est pas. Je suis sûr que dans votre pratique, ça compte.
Ah oui, ça compte, mais en même temps.
Mais ça compte.
Mais elle ne cèdera pas sur Balzac.
Et je ne tiens pas compte du monde qui est le leur. Je l'ignore, mais alors je suis très ignorante de leur monde et je ne veux rien en savoir. Quand bien même j'en saurais quelque chose, je ferais semblant de ne rien savoir pour que précisément ils soient dépaysés dans
mon
cours.
Mais vous voyez, il faut pas faire.
Ça ne les bloque pas. Il faut pas
faire de théorie à partir de cas particuliers. Je connais un professeur de philosophie qui a pris sa retraite autrefois, il y a déjà un certain temps, qui, exactement comme vous, il a répondu un jour à ses élèves qui, après avoir demandé la première séance de l'année aux élèves de remplir une fiche, de dire leur nom, il y en a un qui a dit: et vous, monsieur, qui êtes-vous, etc. Et il a répondu: mais je ne vois pas l'intérêt de la question, pour moi, vous êtes des présences intellectuelles. Et ce professeur réussissait très bien. Bon, mais vous avez des professeurs qui, adoptant la même posture, échoue complètement. C'est-à-dire que ça dépend
de... Mais
Antoine Pro, il y a aussi quand même des professeurs qui choisissent le dévouement, la sollicitude, l'ouverture, qui refusent de parler des élèves, qui parlent des gamins, qui, pour se rapprocher de leur monde, les tutoie, certains même acceptent d'être tutoyés d'eux. J'ai enseigné dans le secondaire, mais il ne me serait jamais, jamais, jamais venu à l'idée de tutoyer mes élèves. Quant à être tutoyé, même après 68, je ne l'aurais pas toléré. Mais là, maintenant, le tutoiement, proximité, etc. Et c'est là que Pascal peut nous servir. C'est la confusion des ordres. D'ailleurs, il y a un article là-dessus très intéressant de Laurent Laforgue dans la revue Conférence. Si vous faites entrer l'ordre de la charité dans l'ordre de l'esprit, alors on est fichu. On essaye d'être gentil, on essaye de se rapprocher, on essaye de comprendre. Mais le professeur n'est pas là pour cela. Il est quand même là pour incarner quelque chose élever.
Et c'est justement en incarnant et en montrant la signification, par l'exemple, la signification que la discipline que nous enseignons a pour nous, que véritablement nous les convaincons. Et que cette autorité que nous avons en tant que professeurs n'est pas un acte d'autoritarisme. Parce qu'ils sentent que nous vivons de ses œuvres, avec ses œuvres, et ils ont envie de posséder de la même façon cette ces œuvres de pensée. Et pour le coup, vous n'avez pas besoin de faire quelques pas en leur direction, mais en revanche, en leur permettant de pénétrer ces pensées, vous rendez...
Je trouve que vous faites un procès que vous n'avez pas instruit. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire le procès des professeurs qui abandonnent les exigences de leur robe. Moi, je trouve qu'il faut avoir le soin de la dignité de son office. Moi, je n'ai jamais tutoyé mes étudiants.
Nous sommes d'accord.
Non, parce que d'une certaine manière, il y a en effet une posture. Mais je suis persuadé que si on fait une enquête pour répondre à cette question, faire un diagnostic, faire un bilan, il ne suffit pas d'affirmation. Il faudrait dire, vous dites qu'il y a beaucoup de professeurs etc. Faisons une enquête.
Alors justement,
et voyons.
Alors, la difficulté quand même, Antoine Prou, pour faire une enquête, c'est qu'il me semble que le divorce s'accroît entre l'expérience et l'expertise, entre ce que disent les gens, les professeurs, souvent, quelquefois les parents, et ce que les sociologues décrivent. Voilà pourquoi je cite souvent des lettres que j'ai reçues, et je voudrais vous en citer une dernière. Malheureusement, votre commentaire à l'un et à l'autre sera court, car l'émission se termine, et cela va au-delà de la question de l'école. C'est une femme qui m'écrit parce que, dit-elle, elle a l'impression d'être d'une autre culture que ses propres enfants. Je la cite. « Désemparée par l'impossibilité de partager avec eux ce qui m'a ému, enthousiasmé, je dois à chaque instant me justifier de mes goûts d'un autre âge. J'avais bien imaginé le conflit, mais pas le mépris goguenard qui réduit tout ce que j'aurais voulu leur faire découvrir à de vieilles lunes inutiles et dépassées. S'agit-il d'un combat perdu d'avance? Nous sommes une famille de musiciens classiques. Faut-il se résigner, accepter de vivre sous son propre toit comme le dernier membre d'une tribu amérindienne, comme l'un des ultimes héritiers d'une civilisation en voie de disparition, témoin impuissant de la perte de sa langue, de sa conception du monde et surtout de la hiérarchie de ses valeurs. Que pensez-vous d'un tel témoignage? Est-il significatif de quelque chose?
Oui, pour vous, ça qu'il soit significatif de quelque
chose. Par-delà ce problème familial,
Non, mais c'est évident. Non, mais l'accélération de l'histoire a été telle que la distance entre les générations est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'autrefois. Oui, ça c'est incontestable.
Qu'est-ce que l'école peut faire?
Ce qui accroît la difficulté pour l'école, oui, voilà. C'est tout à fait.
Ce sentiment de non-continuité historique, voilà. Qui est le gros problème.
Oui, mais
je crois qu'il faut ne pas signer la reddition.
Non, mais d'accord.
Surtout pas signer
d'accord,
la reddition.
D'accord, mais il faut gérer YouTube.
Ou il faut chasser YouTube.
Ou il faut l'ignorer. Mais
non, mais ça ne dépend ni de vous ni de moi.
De l'école.
Non, mais vous ne pouvez pas le chasser de l'école. Chassez déjà les smartphones et vous aurez déjà fait un bon travail.
Bon, en tout cas, voilà, entre réforme et résistance, je vous remercie de cette discussion, Antoine Prou et Bérénice Levet. Alors, je rappelle, Antoine Prou, que vous venez de publier « Du changement dans l'école, les réformes de l'éducation de 1936 à nos jours » aux éditions du Seuil. Bérénice Levet, votre article « Droit à la continuité historique » est paru dans le numéro du débat consacré à la culture du passé. C'est le numéro 117 et c'est édité, comme nous le savons tous, chez Gallimard. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site répliquefranceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. À l'occasion du week-end que France Culture consacre à Internet, nous rediffuserons la semaine prochaine l'émission du 27 avril 2013, La Révolution numérique. Mes invités étaient et seront Cédric Biagini et Bruno Patino. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et de Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Pierrick Charles. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.